Concernant le retour de Jésus, c'est un fait très important, déjà que personnellement nous devons connaître, que nous devons aussi croire, mais c'est aussi un temps, on dirait aussi de plein de consolation et d'espérance. Alors on va faire d'abord une lecture d'introduction. Ensuite, pour gagner du temps, je donnerai plusieurs références. On ne les lira pas justement pour gagner du temps, mais je vous donnerai les références pour ceux et celles qui prennent des notes. Quoique c'est enregistré, vous pourrez reprendre l'étude sur le site de l'Église. C'est Jean chapitre 14, et à partir du verset 1er. C'est donc Jésus qui parle, et voici ce qu'il dit à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin d'où je suis, vous y soyez aussi. Voilà donc une promesse de la part du Seigneur Jésus. Il dit bien qu'il va partir, il va retourner dans la gloire, mais après un certain temps, il reviendra pour chercher son Église. Il faut aussi quand même admettre que cette doctrine du retour de Jésus, c'est une doctrine qui n'est pas si simple que cela. D'ailleurs, si c'était si simple, il n'y aurait pas autant d'interprétations. Vous avez ceux qui aiment déformer l'écriture pour attirer, pour fasciner, pour détourner les gens de la saine doctrine, mais il y a aussi peut-être les interprétations en fonction de ce qu'on peut penser comprendre, qui n'est pas forcément une erreur volontaire mais involontaire, mais faudra-t-il savoir qui a tort et qui a raison? Parce que concernant le retour de Jésus, par exemple, il y a trois écoles à cela. Vous avez ceux qui vont prôner que Jésus reviendra avant la grande tribulation. Vous avez une autre école qui va dire que Jésus reviendra dans le milieu de la grande tribulation. Et puis une autre, c'est à la fin de la grande tribulation que Jésus reviendra. Alors la question auquel on peut se poser, mais qui a tort et qui a raison? Je ne ferai pas de polémique à ce sujet, parce que ce que je remarque, c'est que dans ces trois écoles, ils attendent le retour quand même de Jésus. Le problème, c'est plutôt un problème chronologique. D'ailleurs, qui a la vérité à 100%? Certainement que nous-mêmes, dans nos prédications, dans nos études, il y a peut-être des choses qui ne sont pas justes, vraies. Donc il est bon des fois, c'est vrai, de reprendre. Mais là, qui a tort et qui a raison? Pour ma part, parce qu'il faut quand même, en tant que aussi ce soir, avoir aussi un point de vue, mon point de vue serait que Jésus revient avant la grande tribulation. Si vous vous rappelez que lorsque nous avons vu Apocalypse au chapitre 4, à partir du chapitre 4, justement, il n'est plus question de l'Église dans le livre de l'Apocalypse. On suppose donc, et je suppose, et je le dis aussi avec conviction, que l'enlèvement de l'Église se fait entre le chapitre 3 et 4 de l'Apocalypse. Ensuite, on voit que les choses, c'est dans le ciel, et des fléaux s'abattent sur la terre. Mais l'Église, apparemment, elle n'est plus. Et dans tous les cas, eh bien, l'un et l'autre, selon leur interprétation, ils attendent tout de même le retour de Jésus. Les événements actuels qu'on peut voir, entendre, montre la justesse des paroles de Jésus. Je ne veux pas non plus tomber dans le piège en disant, voilà, il est arrivé ceci, ça y est, Jésus va revenir tout de suite. Il y a un processus. Dieu est patient, Dieu tarde. C'est sûr qu'il voudrait revenir aujourd'hui, mais il tarde parce que certainement que le nombre que Dieu a sait qu'il va se tourner vers lui, n'est pas arrivé à son comble, donc il tarde. Parce que Jésus n'est jamais en retard dans ses promesses. Il est toujours à l'heure. Et je dirais, tant mieux s'il tarde à venir. Quelque part, ça me permet, personnellement, comme pour vous, de nous remettre en question, s'il est nécessaire même de nous réconcilier. Mais Dieu veut aussi amener encore plusieurs à la repentance, à la conversion pour qu'ils soient sauvés avant que Jésus ne revienne. Donc, il est important de savoir que Jésus revient. La perte de cet enseignement caractérise toujours des temps de déclin spirituel de l'Église. Quand l'Église perd cet objectif, cet enseignement du retour de Jésus, c'est qu'il y a un problème. Il faut savoir que dans l'Écriture, rien que dans le Nouveau Testament, il est fait mention de plus de 300 fois du retour de Jésus. Donc on voit que cette doctrine, cet enseignement, elle tient une place importante et qu'il faut remettre au goût du jour. Parce que parler du retour de Jésus, eh bien, nous amène aussi à une consolation, à une espérance, devant un monde qui est dans le chaos. D'ailleurs, il y a des chapitres entiers qui est consacré, eh bien, au retour de Jésus, ou des fragments, comme 1 et 2 Thessaloniciens, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, donc on a Jean 14, Jésus lui-même l'annonce, Hébreux chapitre 9, verset 28, Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, et puis Actes 3, 19 et 21. Et il y a bien d'autres textes qui annoncent son retour. Il semble que le retour de Jésus est plus important encore que sa première venue. Les prophètes, c'est vrai, ils ont annoncé que le Messie viendrait comme homme de douleur, habitué à la souffrance. Celui qui est l'agneau de Dieu, il vient pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la croix, pour la rémission, la rédemption des hommes. Et le plus important maintenant, c'est que Jésus va revenir. Il ne reviendra pas comme il est venu la première fois, mais il reviendra dans toute sa gloire, et on le verra tout à l'heure. Alors, quel sera le mode de sa venue? C'est vrai que la Bible est littéralement assez sobre à ce sujet, mais elle donne des pistes. Tout d'abord, sa venue, elle sera personnelle. Nous l'avons lu dans Jean, au chapitre 3, bien, je reviendrai. Ce n'est pas un autre ou quelque chose, tout ce que vous voudrez, elle est personnelle. Il s'en charge lui-même. Comme il est venu une fois, il reviendra une deuxième fois. Ce n'est pas quelque chose d'utopique. Ce n'est pas des symboles. Le retour de Jésus sera aussi littéral. Comme sa première venue, c'était des prophéties, elle s'est accomplie littéralement. Eh bien, quand l'Écriture nous parle de son retour, de sa deuxième venue, elle sera littérale. D'ailleurs, dans Acte 1er, lorsque Jésus va dans les airs, il retourne dans la gloire, dans cette nuée, et il disparaît. Vous avez les disciples qui sont là sur terre, ils ont les yeux fixés sur le ciel et ils attendent. Certainement qu'ils avaient eu cet enseignement de Jésus en disant « je m'en vais, je reviendrai ». Alors, ils l'attendent et c'est noble au moins ça. Mais enfin, heureusement qu'ils n'ont pas attendu là parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui resterait d'eux. Alors, il y a deux personnages célestes qui viennent à eux et disent « mais homme, qu'attendez-vous à avoir les yeux fixés sur le ciel ?» Ce Jésus qui est remonté reviendra de la même manière qu'il est venu. Il reviendra de la même manière. Donc c'est quelque chose de littéral. En plus, cette venue sera visible. Ça ne sera pas quelque chose de caché, de voilé. À un moment donné, dans son deuxième retour, Jésus, il même dit que tout œil le verra, notamment le peuple d'Israël. Ils reconnaîtront, donc ils ont besoin de le voir. Et puis, bien sûr, ce retour sera un retour glorieux. Ça ne sera plus l'agneau de Dieu, celui qui s'est laissé prendre par les pécheurs pour être crucifié. Ce temps-là est terminé. Aujourd'hui, nous avons un Jésus dans la gloire. Et quand il reviendra, il revient glorieux. Et aucun homme, aussi grand qu'il soit dans ce monde, au jour de sa venue, ne viendra faire un mandat d'arrestation pour essayer de le crucifier une deuxième fois. Cela est terminé. Il revient et il reviendra pour établir le règne de Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui établit le règne de Dieu, ce n'est pas l'Église. La mission de l'Église, c'est de répandre le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Certains parlent qu'il faut à tout prix prendre tous les, je dirais, les postes de la société, que ce soit politique, enfin les grands, là, vous savez, les grands sommets, pour s'emparer comme du monde, parce que c'est le règne de Dieu. Mais nous voyons que ce n'est pas notre rôle. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas avoir accès, il en faut. Il faut des hommes, des femmes convertis dans les hautes sphères. Parce que bon, moi, ce n'est pas moi qui irai au Sénat, je ne sais pas. Il y a quand même une façon de se tenir, de parler. Donc moi, je ne sais pas, il faut des hommes et des femmes pour ça. Mais le règne de Dieu, c'est Christ qui vient l'établir, c'est lui. Notre devoir, c'est de répandre eh bien, l'évangile. Alors le retour de Jésus se fera en deux phases. Ce qui ne veut pas dire en deux fois, mais en deux phases, il y a deux parties. Alors il y a plusieurs textes dans cela, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16, 17, Matthieu 25, enfin je vous lis 2 Thessaloniciens chapitre 2 et Zacharie 14, nous parle vraiment aussi de ces deux phases de son retour. La première phase, ça se passe dans les airs, Jésus vient. Mais il semblerait que dans cette première phase, le monde ne le voit pas. Parce qu'il vient et à ce moment-là, c'est l'Église est enlevée. Elle va à sa rencontre dans les airs. Et les croyants, à ce moment-là, une fois qu'ils sont dans les airs avec Jésus, disparaissent. Et à ce moment-là, ils seront jugés. Non pas pour la perdition, c'est plutôt le tribunal de Christ, pour que soit déterminée la récompense de leur service. On voit cela dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Donc, dans cette première phase, je la situerai donc entre le chapitre 3 et 4 de l'Apocalypse, où l'Église est enlevée. Les choses se font dans le ciel, et dans le ciel, il y a le grand trône blanc qui est le jugement dernier, où ceux qui ont refusé Christ sont jugés et ensuite jetés dans l'étang ardent de feu. Et le tribunal de Christ, c'est là où l'Église va passer, et c'est là où chacun et chacune va recevoir sa récompense en rapport de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit, de ce que nous avons pensé, c'est-à-dire toute notre vie sera mise en lumière. Et tout ce qui n'aura pas été à la gloire de Dieu sera consumé par un feu, et ce qui restera, si ça a été de l'Esprit, eh bien, pénétrera dans le royaume de Dieu, et nos œuvres nous accompagneront durant toute l'éternité. C'est pourquoi c'est le temps des récompenses. Alors certains recevront plus ou moins. C'est peut-être pour cela où Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Je pense que dans ces récompenses, ça sera aussi en fonction eh bien aussi de notre place dans le ciel. Il y a plusieurs demeures. Alors ça se trouve, eh bien Bernard sera à 200 km de moi. Il aura peut-être une plus grande ou une moins grande récompense, mais dans tous les cas, alors on peut aussi se poser la question, y aura-t-il de la jalousie? Si j'imagine que Thierry a une récompense plus grande que moi, je ne vais pas aller voir le Seigneur et dire « je ne suis pas d'accord, parce que moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, lui il ne l'a pas fait, et patati, et patata ». Eh bien il n'y aura pas de jalousie. On ne va pas envier ce que l'autre a. Au contraire, on se réjouira parce qu'on sera rempli tellement de la présence de Dieu et nous comprendrons la justice de Dieu. Ça sera juste et personne ne pourra se plaindre qu'il y a eu l'un trop ou l'autre pas assez. Non, on acceptera eh bien, le jugement de Christ. C'est comme pour ceux qui comparaîtront devant le grand trône blanc. Là, pour le jugement dernier, nul ne pourra faire appel, ça sera terminé. Actuellement, notre avocat, il est là, prêt à plaider pour quiconque se repent, et pour celui qui résiste, c'est le jugement. Alors, nous voyons que dans les airs, donc ça bien sûr, alors ça c'était la première phase, la deuxième phase, ça se passe maintenant sur la terre, où Jésus avec ses rachetés, là, ils reviennent avec lui sur terre. Et là, il est sûr que c'est une apparition visible de Christ venant des cieux. Et dans le but, donc, d'installer sur la terre le royaume messianique. On peut aussi appeler le temps du millénium. Alors, première phase, c'est dans les airs, c'est Christ vient pour les siens. Et dans la deuxième phase, c'est sur la terre, et là, il vient avec eux. Nous l'accompagnons. Et on règne avec lui. C'est lui le grand chef. Il va certainement nous dire qu'un tel fait ceci, fait cela. Mais c'est une dimension, moi, qui me dépasse, parce qu'avec le monde qu'il va y avoir, ceux qui seront restés sur terre et avec ceux qui sont enlevés, qui vont revenir, tout cela va certainement se mélanger. Je ne sais pas quelle réaction à ce moment-là le monde aura, mais c'est une chose qui va certainement être terrifiant, mais à la fois aussi glorieux et majestueux. Imaginez un temps, Jésus au milieu des nations, en train de paître les nations avec une verge de fer. Celui qui ne marchera pas droit, eh bien, se verra tout de suite, Jésus interviendra tout de suite. Ça sera quelque chose de différent. La pleine justice sera manifestée. Alors, entre ces deux phases, on voit bien qu'il s'écoulera un certain temps, et où l'on situe, bien sûr, entre le chapitre 3 et 4, ensuite, c'est bien sûr la période de la grande tribulation. Donc, il n'y a pas deux venues, comme je disais tout à l'heure, mais il y a une seule, mais en deux actes. Il y a aussi, lorsque Jésus revient, ce qu'on appelle une résurrection, la première résurrection. Elle est à la fois celle des morts en Christ lors de l'enlèvement de l'Église. Par exemple, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, là je pense qu'on peut le lire, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Il est bien dit les morts en Christ, c'est-à-dire les croyants, ceux qui l'ont reçu avant son retour. Donc, ils sont morts avant la venue de Jésus, mais quand Jésus revient, chose extraordinaire, il ressuscite. Il est dit premièrement. Ensuite, nous les vivants en Christ, ceux qui n'ont pas connu la mort, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux, donc les morts en Christ, ressuscités, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors le verset 18, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Le retour de Jésus donc va être une chose extraordinaire. Imaginez dans les cimetières du monde entier, les pierres tombales ouvertes et les morts en Christ sortant de leur tombe. Moi, ça me dépasse. Et puis les vivants, eh bien, ça va être quand même quelque chose peut-être de catastrophique, parce que imaginons que là, on est dans notre voiture, sur l'autoroute, vous êtes croyant, Jésus revient, pouf, vous êtes enlevé. Mais qui va conduire la voiture ? Vous êtes dans un train en train de discuter, vous êtes au restaurant, c'est bien, pas d'addition. Mais imaginez un petit peu le choc mondial. Des millions de personnes qui disparaissent. Les gens qui vont venir au 1er novembre à la Toussaint sur leur tombe, de leur défunt, bah, où est-il ? Qui a ouvert ? Mais il est ressuscité. Il est parti à la rencontre de son maître. Alors le temps de sa venue. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le temps de sa venue ? Certains sont tellement spirituels qu'ils vous ont donné une date, un mois, un jour, il ne manque plus l'heure, les secondes. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs cette année, c'est à Verdun, je crois, eh bien, dans une église, il y en a un qui a prophétisé, a annoncé que Jésus reviendrait en 2024. Alors on est en novembre, on a encore 2 mois. Voilà, donc si vous avez des choses à régler, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, allez faire un beau crédit. Vous savez que vous n'allez pas le rembourser. Non, ne faites pas ça, hein, c'est une blague. Hein. Mais c'est un homme qui prend un risque. Parce que nulle part dans l'Écriture, Dieu dira à quelqu'un, même à un de ses prophètes, même à un de ses plus grands prophètes, jamais Dieu donnera la révélation du retour de Jésus. Il annonce qu'il reviendra, mais jamais le dira quand. C'est trop facile. Imaginez qu'il revienne au 1er décembre 2024. Oh ben, mangeons et buvons. Je vais faire tout ce que j'ai envie. Et puis au 30 novembre, Seigneur, je te demande pardon. Je me remets en règle. Comme c'est un Dieu de grâce et d'amour, il me pardonne, il revient 1er décembre, hop, tranquille. C'est trop facile. C'est peut-être une façon de se rassurer. D'ailleurs, vous remarquerez que sur certains textes, certains ont même trouvé des indices que Jésus donne pour le jour de son retour. Ils vont vous dire, il ne le dit pas clairement. Alors, ils vont jouer sur le calendrier hébraïque. Oui, vous savez, parce que... Mais Jésus est clair. Matthieu 25, verset 13. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Jésus est clair. Faut-il interpréter ce verset? Non, il est clair. Moi, je le comprends. Je ne sais pas. Je suis désolé pour vous. Si vous attendiez une révélation, je ne l'ai pas. Toujours dans Matthieu 25, au verset 19. Longtemps après, donc c'est suite après avoir donné une parabole, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Longtemps après, mais il ne dit pas de date. Il ne dit pas « je reviendrai à telle période », mais longtemps après. Nous, ça fait maintenant plus de 2000 ans qu'on attend. C'est longtemps, mais il revient bientôt. Et acte 1, verset 7, vous connaissez aussi ce verset où les disciples posent la question, mais est-ce qu'en ce jour-là que tu vas rétablir? Et il va dire, mais ça ne vous concerne pas. Concernant le rétablissement, mon retour, ne vous fatiguez pas à chercher. Ni le Fils, ni personne ne sait. Alors je trouve dommage que des articles, des livres sont écrits à ce sujet alors que c'est très clair. D'ailleurs, quand Jésus parle de son retour, il parle d'un retour subit qui va surprendre le monde. Même les élus, même le serviteur fidèle qui était dans l'attente de son retour sera surpris. Alors si on connaît la date, il n'y a plus de surprise. Or Jésus dit bien, je viendrai comme un voleur. C'est-à-dire, vous serez surpris. Alors, il faut nous préparer. Parce que le but, d'ailleurs dans les paraboles ou les questions du retour de Jésus, le Seigneur met le point d'honneur sur une chose. Non pas que nous cherchions la date, mais nous dit, soyez prêts, veillez et priez. Veillez et priez, parce que vous ne savez pas quand reviendra le Fils de l'homme. Et ça demande donc une attention jour par jour, d'être vigilant. Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, donc il s'adresse bien à ses disciples, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Alors, que nous est-il dit en ce qui concerne ce temps? Cela aura lieu à l'heure où nous ne penserons pas à son retour. Donc, pour les fervents de date, ils se trompent, parce qu'à un moment donné, ils oublient, parce qu'on n'y pense pas. On s'aperçoit que quand Jésus annonce l'état même du monde dans lequel il sera lors de son retour, il va dire dans Luc 17 que le monde sera absorbé par ses préoccupations. Et le monde dans ses préoccupations, c'est, on va dire, comme ça va faire comme boule de neige. C'est pas seulement les grands de ce monde qui vont être préoccupés par les problèmes du monde, mais ils vont créer chez les peuples, et même on voit bien en Europe, des inquiétudes, des angoisses. Ensuite, le jour du Seigneur ne viendra pas avant que l'homme du péché soit arrivé. On le voit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Donc il est quand même important de savoir cela, parce que certains vous vont dire qu'on est déjà dans le temps du millénium, que Jésus est entré dans ce monde, il est intronisé, mais invisible. C'est facile. Comme il est invisible, vous ne pouvez pas le voir, mais il est bien là. Ça, c'est trop facile. Mais il y a quand même des signes qui disent que si Jésus est là ou pas. Donc, Paul dit bien que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. et qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Apparemment, les Thessaloniciens savaient ce qui retenait justement ce personnage. Afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps, car le mystère de l'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Est-il venu? Non. Donc Jésus ne peut pas être là, puisque c'est d'abord l'Antichrist, et quand Jésus revient, comme dit Paul, alors Jésus va l'anéantir du souffle de sa bouche. On voit là toute la puissance de Jésus, un souffle. L'autre qui va se démener avec une puissance militaire, politique, religieuse, il va fasciner le monde entier. Jésus vient, un souffle, il n'y a plus rien, plus personne. Mais il faut d'abord cette apparition. Les derniers jours seront des temps aussi d'apostasie, des temps difficiles où la vraie foi sera rare. Quand Jésus va dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Il sait très bien ce qu'est l'homme, même ceux qui croient en lui. Vous savez, on est loin ici d'un réveil mondial. Je ne suis pas partisan pour cela. Peut-être que je me trompe ou je ne comprends pas, mais quand nous lisons vraiment les descriptions que Jésus fait de la fin des temps, même Paul à Timothée, je ne lis pas un réveil mondial. Mais je vois une décadence. Le seul réveil auquel je crois, c'est un réveil national du peuple d'Israël. Mais le monde a connu, eh bien, l'Évangile. J'aimerais quand même vous lire ce passage qui est quand même important. C'est dans Matthieu 24, quand il dit au verset 14, « Cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre. » L'évangile a fait je ne sais combien de fois le tour du monde aujourd'hui. En un clic, on a les prédications, on a tout ce qu'on veut. L'évangile a été prêché sur toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et Jésus va dire, et alors la fin arrivera. Vous savez, il y a quand même deux éléments qui nous disent véritablement que plus rien ne retient la venue de Jésus. Le rétablissement d'Israël, qui avait été prophétisé, c'est fait. Israël est une nation depuis mai 1948, le siècle dernier. Et puis l'évangile qui a été répandu dans le monde entier, comme il le dit Jésus, alors la fin viendra. Déjà sur ces deux signes, ça nous dit que plus rien ne retient la venue de Jésus. La question c'est quand? Je ne sais pas. Alors veillons et prions. Alors on voit bien que l'Écriture nous exhorte à être vigilants, prêts pour le retour de Jésus. C'est un événement qui peut survenir donc à tout instant. Il y a des signes en relation aussi avec l'actualité. Il y a une vraie préoccupation, donc il y a des événements forts qui nous interpellent. Depuis cette année, c'est pas seulement en France ou en Europe, c'est dans le monde, on est tous touchés par un dérèglement climatique. On a vu dernièrement en Espagne, c'est vraiment effrayant, quoi. Et on peut comprendre qu'il nous faille garder foi en Jésus. Parce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce qu'à cause de toutes ces choses, les gens ne vont pas-ils baisser les bras? En se disant, si Dieu était vraiment ce qu'il est, ce que vous prêchez, pourquoi toutes ces choses arrivent? Personnellement, je crois que tous ces événements qui arrivent, je crois quand même qu'il y a un dérèglement climatique, parce que ça ne vient pas comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, quelque part, la main de Dieu qui veut pousser les nations à les amener à la repentance, à ne plus chercher le secours ici-bas, mais à les amener à lever les yeux et à crier au Seigneur? C'est, je dirais, des avertissements de Dieu. Parce que Jésus vient bientôt. Et tous ces événements doivent aussi réveiller l'Église en disant, mais tout ce qui arrive là, Est-ce que la Bible n'avait-il pas prédit certaines choses? Comme quelqu'un l'a écrit, la Bible, c'est le journal de demain. C'est le journal de demain. Quand je lis, quand je vois toutes ces choses, je ne vous cache pas que c'est vrai, ça me fait quelque chose. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire, mais Seigneur, c'est vrai que là où on arrive, comme le monde arrive à bout de souffle, on arrive au bout. Il faut que tu reviennes parce que qui va tenir devant ces choses, devant toutes ces angoisses? Alors il est important de demeurer dans une attitude de confiance à l'égard du Seigneur, parce que la perte de cette confiance nous conduit à rétrograder. Et quoi qu'il arrive, Dieu garde son peuple. À nous d'être des lumières, une lumière dans nos foyers, pour nos voisins, pour nos collègues de travail. Et la foi est aussi un ensemble de vérités doctrinales et éthiques qui concernent la vie spirituelle et réelle. C'est vrai qu'on risquera de se faire traiter de ringard, de primitif, par rapport à la technologie d'aujourd'hui, l'avancement de toutes ces choses. Nous, on va rester, vous savez, on en est encore à Jésus revient, faut pas se préoccuper de ceci, on va nous prendre, mais vous êtes des fous, mais vous faites l'autruche, la politique de l'autre, non. C'est clair, je vois très bien ce qui se passe. J'ai des yeux quand même et des oreilles pour voir et entendre. Mais la différence, c'est que la Bible, qui est notre journal de demain, ça ne doit pas m'affecter. Mais quelque part, je me réjouis parce que je sais que Jésus vient bientôt. Ça n'annule pas la tristesse et la compassion pour ceux qui subissent. Ça ne doit pas retirer, au contraire. Alors, il y a aussi un avertissement solennel de la part du Seigneur Jésus. Il le dit, Matthieu 24, verset 12, « Parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. » Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde où il est froid, il est même plus tiède. Et notre époque est marquée par cet accroissement de péché. Et puis, j'ai noté dans l'Écriture, concernant la fin des temps, eh bien, plusieurs formes d'angoisse qui va prendre les nations, les habitants de la terre. Il y aura donc une angoisse généralisée qu'on voit dans Luc 21, versets 25 à 38, où il décrit tous ces événements. Donc il y a une angoisse qui est généralisée parce que même les grands de ce monde ne savent quoi faire devant tous ces éléments qui se déchaînent. Pas seulement climatique, mais ça peut être aussi politique, mais aussi économique. Ils sont dépassés, ils ont leurs limites, mais l'orgueil, la fierté, au lieu finalement de chercher ailleurs et du bon côté, eh bien on essaye des trucs et des machins qui ne marchent pas. Mais au travers de cela, il y a une parole encourageante. Luc 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Ça, c'est une parole encourageante qui peut peut-être nous inquiéter, on est humain, et je le conçois, mais levez la tête, parce que notre délivrance, elle est proche. Alors, angoisse généralisée, il est question aussi de l'angoisse économique. Qui ne s'inquiète pas de l'économie d'aujourd'hui? Et certainement, ceux qui font des études dans ce domaine-là, ils doivent certainement avoir plus peur que nous. On ne veut peut-être pas tout nous dire. Mais 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, l'apôtre Paul dit « Paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra. » Cette ruine, c'est quoi? Ce n'est pas seulement une ruine causée par la guerre, mais vous savez, un problème économique peut susciter une ruine d'un pays. Et ça, c'est une grosse inquiétude. Et donc, ça va surprendre les nations comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Et il est dit « Et ils n'échapperont. » Donc c'est quelque chose d'inévitable. Alors il y a paix et paix, il y a la paix de Dieu, et puis il y a aussi cette paix illusoire. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne la donne pas comme le monde donne. Le monde, la paix du monde, c'est de la rosée, quoi. On vous fait croire, et puis le lendemain matin, vous êtes saisi d'angoisse. Et puis vous avez ce fameux, comme certains le nomment, le grand village mondial, vous savez qu'on veut la monnaie unique, etc. Alors on pourrait se dire, c'est pour nous protéger justement de cette ruine économique, de rassembler tous les peuples pour en faire un. Alors on pourrait se dire, ben, pour éviter finalement la faillite et la pénurie, c'est louable. On veut dire, l'intention est bonne. Mais sachons que les efforts que l'homme fait pour tenter de se soulager de ses maux, eh bien, ça reste un rêve. Il y a eu un certain Nimrod dans la Genèse qui a voulu, eh bien, sa tour de Babel, il a voulu son village mondial. Ça a été un fiasco. Mais nous voyons que cette idée de la tour de Babel, Babylone, c'est toujours dans le cœur de l'homme, parce qu'on la retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Mais si à la Genèse, Babel n'a pas été terminée, l'Apocalypse nous montre que cette Babel est terminée, Babylone est finie. Mais elle ne dure qu'un instant, très peu de temps, parce qu'elle est détruite. Et là, c'est le monde, il est en désarroi. Alors s'il y a aussi ce grand village mondial qui n'est pas favorable, il y a aussi l'angoisse sociale qui frappe aussi toutes les nations. Vous avez les angoisses dues à l'écologie, dues aussi à la crise sanitaire, nous l'avons connue en 2020, l'angoisse de l'insécurité, et on pourrait peut-être en rajouter. Il semblerait que ces choses, eh bien, deviennent de plus en plus pesantes. C'est pourquoi l'Église, eh bien, elle doit revenir, eh bien, à la rencontre du Seigneur, revenir à sa parole, et de se consoler quelque part, et de s'encourager mutuellement. Jésus vient bientôt. Alors il y a une nécessité impérative, parce qu'on montre bien que les choses ne sont qu'au commencement. Ça veut donc dire que si c'est comme ça aujourd'hui, que sera demain? Que seront les jours d'après? Alors Jésus va dire dans Matthieu 24, verset 22, « Si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. » Ça veut dire que les temps deviendront tellement, je dirais, sous pression, il semblerait que là, même les élus ne pourront tenir. Mais parce que Dieu a fait des promesses à ceux et celles qui ont cru en lui, afin de ne pas les amener à une pression trop grande, quitte à même à perdre cette foi ou à relâcher la main de Dieu, alors à un moment donné, il va abréger et emmener son Église. Il nous garde. Alors je ne dis pas qu'on ne subira pas certaines difficultés. On en est déjà en plein dedans. Donc je ne veux pas non plus être un doux rêveur en disant « rassurez-vous, combien même il ne vous arrivera rien ». Ça, je ne sais pas. Je prie simplement que le Seigneur m'aide à garder la foi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous passons. Combien même je viendrai à perdre mon emploi ou qu'on viendrait à nous dire, eh bien voilà, votre retraite au lieu de temps, ben, ça sera de la moitié. Je me dis, c'est sûr que je vais, parce que j'ai des projets, mais je me dirais, ben, c'est peut-être le moment de revenir à une foi simple dans le Seigneur et de montrer, eh bien Seigneur, on me prend, mais toi, tu es celui qui est l'abondance. Et puis l'Écriture nous dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tous ces systèmes-là, ce n'est pas les systèmes que le Seigneur a demandé, c'est des systèmes humains. Mais voyez-vous, ça ne tient qu'à un fil. Du jour au lendemain, nous pouvons tout perdre. Tout. Notre sécurité sociale, notre retraite, tout. Alors ne relevons pas trop la tête. S'il faut la relever, c'est pour voir Jésus dans la gloire, en qui nous avons tout pleinement. Et quelque part, je me dis, est-ce que ce ne serait pas un bien? Parce que ça va peut-être être un électrochoc pour notre vie. Et de revenir à une foi simple et sincère avec le Seigneur. Et là, on va comprendre ce que c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre la puissante vie de Christ dans ce monde. Alors, il y a aussi un encouragement réconfortant, c'est quand Jésus dit à une de ses églises, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde. » Vous avez bien entendu, « Je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il est question des habitants de la terre. Mais en introduction, je disais que l'Église est déjà enlevée. Donc Dieu va nous garder. Et je pense que ce verset et à considérer que l'Église n'entre pas dans le domaine de la grande tribulation. On a les ébauches, mais on ne sera pas dans la pleine et grande tribulation. On sera dans le ciel. Alors, c'est sûr, il y a aussi dans ce domaine des débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais après, bon. L'Église sera donc enlevée, et c'est certainement elle qui retient la manifestation de l'Antichrist. Et une fois que l'Église est enlevée, on s'aperçoit que là, il y a cette manifestation de cet Antichrist. D'autres vont dire, non, c'est autre chose, mais je ne vois pas autre chose. Mais une fois que l'Église est enlevée, on va dire, alors le Saint-Esprit est-il encore sur terre pendant la grande tribulation? Je crois que oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur terre, pendant la grande tribulation, il y aura déjà deux témoins. Et pour faire ce qu'ils vont faire, ils devront être remplis du Saint-Esprit. Et puis il y a les 144 000 témoins qui vont par la terre et annoncer l'Évangile. La bonne nouvelle, il leur faudra aussi la puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils auront en face d'eux eh bien, une opposition au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'opposition qu'on connaît aujourd'hui, c'est rien comparé à ce qu'eux vont vivre. Donc, quelque part, il y aura toujours une manifestation de l'Esprit en faveur des deux témoins des 144 000, mais il y aura aussi, pendant cette grande tribulation, il est question des martyrs de la grande tribulation. Il y aura soit des hommes et des femmes qui ont connu le Seigneur, entendu l'Évangile, qui ont suivi, et puis à un moment donné qu'ils ont décroché, et que face aux événements qu'ils auront entendus et vus, alors ils vont comprendre, dire c'est vrai. Et donc ils vont tenir, mais c'est au prix de leur vie. Et puis au travers de cela, il y aura peut-être aussi encore des conversions, mais ça sera toujours au prix de leur vie. Alors le retour de Jésus, il faut voir cela comme une perspective glorieuse du retour du Seigneur pour nous. En tant que chrétiens, disciples de Jésus. Ce qui nous attend maintenant, eh bien, c'est une résurrection. Ce corps que nous avons va disparaître. Et Dieu va nous donner un corps incorruptible, un corps qui va pouvoir tenir dans la présence de Dieu et qui ne connaîtra ni faiblesse, ni maladie, ni douleur, et sera éternel. On sera encore bien plus beau qu'on est maintenant. Rayonnant de la gloire de Dieu. Moi, je sais que je n'ai pas beaucoup de changements à faire. Mais ça, c'est une perspective glorieuse pour nous, d'être ressuscité avec lui. Oui, notre corps, il dépérit parce qu'il y a l'âge, etc., les maladies, les douleurs, qui est, je dirais, dû malheureusement aux conséquences du péché. Mais imaginez ce corps qui va disparaître et Dieu va vous donner un corps nickel. Mais nickel de chez nickel. Plus besoin de se laver. Oh là là, les économies qu'on va faire. Eh, il n'est jamais dit qu'il n'y a pas de salle de bain dans le ciel. Hein. Moi, je n'ai pas lu. Parce qu'imaginez que si le Seigneur ne revenait pas, que serait notre foi? Que serait notre espérance? Ça sert à quoi d'espérer? Mais les morts, il ressuscité, il revient. Donc ça vaut la peine de maintenir la foi en lui et d'être converti, repenti et espéré. Et puis l'enlèvement de l'Église, cela voudra dire donc une paix dans la présence de Dieu, une paix éternelle. Il y aura la consolation éternelle, une résurrection, mais il y a aussi les récompenses que nous aurons chacun et chacune, selon son rang, selon ce qu'il aura fait. Et le tribunal de Christ ne décidera pas du salut. Si nous sommes au tribunal de Christ, c'est que parce que nous sommes sauvés. Il est déjà acquis. Mais le disciple n'ira pas au jugement dernier non plus. C'est déterminé. Donc, je détermine ma destinée, mon éternité ici-bas. Mais pas quand Jésus revient. C'est maintenant. Et puis, les noces de l'agneau. Ça, c'est une chose extraordinaire. Pour le moment, on est dans le stade fiançailles. On peut rompre une fiançailles, mais là, il est question des noces. Et vous savez que pour le mariage, le Seigneur prend ça très au sérieux. Le mariage, le couple, c'est l'image eh bien, de l'Église de Christ. Paul en parle dans Éphésiens. quand il fait allusion justement au mariage, il dit « je dis cela par rapport à Christ et son Église ». Les noces qui se fera dans le ciel, vous savez, quand on s'est marié, ça a été pareil pour vous, devant le maire, on signe, et puis il va dire, on connaît bien cette petite phrase, « pour le meilleur et pour le pire ».
C'était quelle date ?
C'était le siècle dernier. C'était « ouh ». Et ce qu'on a retenu, c'est « pour le meilleur et pour le pire ». Vous avez malheureusement dans certains couples, même certains tout couples chrétiens, certains ont cru qu'ils ont signé dans la case « meilleur » et ils ont laissé le pire pour le conjoint, quand on voit des fois comment ça se passe. Mais le meilleur et pour le pire, c'est pour les deux. Mais ça, c'est ici-bas, mais dans le ciel. Dans le ciel, quand on va être dans les noces, on va être marié avec Christ. Il n'y aura pas de pire, mais il y aura le meilleur. Marié pour le meilleur, c'est tout. Ici-bas, c'est le meilleur et le pire. Parce qu'on sait que le pire peut arriver, mais dans le ciel, plus de mort, plus de douleur, plus de maladie. Alors c'est le meilleur, les noces de l'agneau. Alors la conclusion, c'est que la pensée du retour de Jésus devrait remplir nos cœurs d'espérance. Tenons bien, fermement, dans la foi. Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Et Luc 21, verset 28, ce sera le dernier verset et nous terminerons là. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Amen. Amen. »